Afrique, les infos. À Washington.
Au micro, Nani Talani, 18h à Lagos, au Nigeria. Bienvenue dans ce journal. Un tribunal kényan a condamné ce mercredi à 100 ans de prison un homme reconnu coupable d'avoir violé trois jeunes filles âgées de 13 et 10 ans après les avoir enfermées dans une église. Il s'agit d'un crime grave et l'accusé devrait purger une peine dissuasive pour d'autres violeurs potentiels, a déclaré le juge Maxwell Guicheru du tribunal d'Embu. Âgé de 20 ans, Harrison Kinoa a abusé sexuellement les jeunes filles le 9 décembre 2015 dans une église du village, alors qu'elles y rapportaient des chaises empruntées pour un enterrement. L'accusé, qui a plaidé coupable et n'est pas un ecclésiastique, avait lui aussi assisté à l'enterrement et avait suivi les jeunes filles jusqu'à l'église. Il avait ensuite tenté d'acheter leur silence en leur offrant des frites, mais en vain. Les victimes ont raconté les faits à leurs parents. Un examen médical a confirmé que ces dernières avaient été abusées sexuellement. L'accusé avait initialement nié les accusations portées à son encontre, les expliquant par un conflit l'opposant à la famille des jeunes victimes. Il a fini par avouer les faits, assurant qu'il pensait qu'elles étaient suffisamment mûres. La haute cour du Zimbabwe a ordonné ce mercredi la libération sous contrôle judiciaire de Promise Nkwananzi, un des animateurs de la fronde populaire contre le président Robert Mugabe. Cette libération intervient à 3 jours d'une nouvelle série de manifestations prévues par l'opposition dans tout le pays, en dépit d'une interdiction de rassemblement en cours dans la capitale. Les détails avec Tatiana Mosso.
Promise Nkwananzi, à la tête du mouvement Tajamuka, nous sommes agités, avait été arrêté le 26 août dans la capitale Harare et inculpé de violence sur la voie publique. Sa libération a été ordonnée 3 jours avant des manifestations prévues par l'opposition dans tout le pays, en dépit d'une interdiction de rassemblement en vigueur dans la capitale. Tajamuka a aussi affirmé que l'un de ses militants, le comédien Silvanos Mudzovova, avait été hospitalisé après avoir été frappé par des inconnus. Nous soupçonnons des membres de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, d'être derrière cette attaque, ont-ils affirmé. Le Forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe, une coalition d'organisations, a indiqué avoir reçu des informations selon lesquelles des personnes probablement proches du pouvoir s'en prenaient à des sympathisants de l'opposition. Depuis plusieurs semaines, les rues d'Harare sont le théâtre d'une nouvelle vague de contestation contre le régime sur fond de graves crises économiques.
Au cours d'un point de presse animé ce mercredi à Johannesburg, Pierre Spigou, consultant pour l'International Crisis Group, a dit qu'il faut s'attendre à un déploiement des forces de sécurité et à des tirs de gaz lacrymogène et sans doute de balles en caoutchouc. Le grand danger est de voir des jeunes de la ZANU PF parti au pouvoir de s'en prendre aux manifestants quand ils se rendent en ville ou une fois qu'ils sont dans le centre d'Harare, a-t-il ajouté. Au Nigeria, le groupe armé Boko Haram a publié une nouvelle vidéo dans la nuit d'hier à aujourd'hui sans que son commandant Aboubakar Shekau n'y figure. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
L'enregistrement de 13 minutes posté sur YouTube montre un homme dans un long kamis blanc, vraisemblablement un imam, qui préside les prières de l'Aïd devant des centaines de villageois et d'enfants amaigris présentés comme des soutiens aux combattants islamistes. Un autre combattant, entouré de ses hommes, sabre à la main, conduit la foule, affirmant qu'il représente la faction de Shekau, qui a été mise à l'écart début août par le groupe État islamique. L'armée nigériane a annoncé le 23 août que Shekau avait été mortellement blessé avant de se raviser et d'assurer qu'il avait été très grièvement blessé à l'épaule dans un raid aérien qui aurait tué plusieurs commandants de Boko Haram. L'homme de la vidéo a ensuite visé directement le gouvernement de Muhammadu Buhari, promettant que le mouvement djihadiste ne se rendrait jamais malgré les opérations militaires en cours dans le nord-est du pays.
Au Sahel, les groupes djihadistes n'ont plus la capacité tactique de procéder à des actions d'envergure comme prendre et contrôler une ville. Ces assurances ont été données hier, mardi, à Ouagadougou, au Burkina Faso, par le nouveau commandant des forces françaises Barkhane, le général François-Xavier de Walmont, à l'issue de ses entretiens avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore. Écoutons le général.
Contrairement à l'impression qu'on peut avoir, les groupes terroristes, les armées du G5 et Barkhane remportent des succès importants contre les groupes terroristes. Les groupes terroristes n'ont plus de capacité qu'on appelle tactiques. Ils n'ont plus de capacité de prendre une ville, de contrôler une ville. Ils restent dangereux, comme tous les terroristes du monde, mais ils n'ont plus ce qu'ils ont eu à un moment, qu'on a pu appeler l'industrialisation du terrorisme, notamment en Normalie. Donc dans le Sahel, il n'y a plus de groupes terroristes capables de mener des actions d'envergure. Ça ne veut pas dire que la question est réglée, mais ça veut dire que le travail des armées, les actions des armées du G5 et l'action de Barkhane a porté ses fruits. Ce qui est certain, c'est que tout cela, nous, notre action militaire, elle n'a de sens qu'au service d'une avancée politique, une avancée de la réconciliation et des accords de paix. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est aider en luttant contre ce qui empêche l'accord de paix, en luttant contre les terroristes, aider cette avancée de la réconciliation et de l'accord de paix. Et donc tous ces groupes qui peuvent apparaître doivent être pris en compte par un processus politique.
L'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda a de nouveau refusé ce mercredi de comparaître à son procès pour crime contre l'humanité à la Cour pénale internationale. Il en est au 7e jour d'une grève de la faim et c'est ce qui pose un dilemme à ses juges. La Cour a tout de même ordonné que le procès se poursuive en son absence, même si l'accusé a ordonné à ses défenseurs d'arrêter de le représenter en son absence. Bosco Ntaganda, qui avait assuré hier être prêt à mourir, proteste contre ses conditions de détention et accuse la Cour de ne pas lui accorder un procès équitable. Son avocat, Maître Bourgon, avait dit que son client n'avait plus aucun espoir de voir ses enfants dans des conditions normales. La semaine dernière, les juges avaient refusé de lever les restrictions imposées sur ses contacts avec l'extérieur après des inquiétudes au sujet d'intimidation présumée de témoins. Les juges ont néanmoins répété ce mercredi que rien dans ces conditions de détention n'empêchait les visites familiales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a annoncé ce mercredi le lancement d'un plan pour l'Afrique qui permettrait de donner des perspectives économiques aux candidats à l'émigration en Europe. Il s'agit d'un plan ambitieux qui a le potentiel de lever 44 milliards d'euros d'investigation. Saloua Diafaré.
Lors d'une session plénière du Parlement européen, Juncker a déclaré que son plan offrirait des opportunités à ceux plus susceptibles de quitter leur pays pour une vie meilleure de l'autre côté de la Méditerranée. Juncker souhaiterait même doubler les fonds si les États membres de l'UE y contribuent. Objectif, compléter l'aide au développement pour répondre à l'une des causes de l'immigration, une aide cruciale à un moment où la croissance économique dans les pays en voie de développement est à son plus bas niveau depuis 2003. Ce plan pour l'Afrique serait calqué sur le modèle du fonds d'investissement Juncker, lancé en 2015, et destiné aux pays européens. Dans les deux cas, les investisseurs privés et publics sont incités à injecter de l'argent dans différents projets grâce à des garanties de crédit offertes par le budget de l'UE. En contrepartie, il s'agit aussi d'obtenir des pays africains qu'ils s'investissent plus dans la lutte contre l'immigration clandestine. Pas plus tard que lundi 12 septembre, les gardes-côtes italiens ont recueilli pas moins de 6500 personnes au large de la Libye.
Ici aux États-Unis, une petite lueur d'espoir pour Edward Snowden, l'informaticien réfugié en Russie qui risque jusqu'à 30 ans de prison dans son pays s'il était jugé. Mais Amnesty International et American Civil Liberties Union, la puissante association américaine de défense des libertés civiles, s'apprêtent à lancer une pétition internationale pour réclamer au président Barack Obama d'accorder son pardon au lanceur d'alerte Edward Snowden. Selon Ben Wisner, l'avocat du concerné, le but est que les personnalités et organisations de premier plan se joignent à l'appel au président Obama de pardonner à Snowden. L'avocat a aussi précisé que la pétition serait présentée ce mercredi après-midi à New York. En juillet, la Maison-Blanche avait opposé une fin de non-recevoir à une première pétition qui avait rassemblé plus de 160 000 signatures pour réclamer le pardon sans condition pour Snowden. Inculpé pour espionnage aux États-Unis, l'informaticien qui s'est réfugié en Russie risque jusqu'à 30 ans de prison dans son pays. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais vous pouvez toujours nous suivre sur notre page internet voaafrique.com et aussi notre page Facebook où vous pouvez laisser des commentaires, faire des suggestions. Moi, je vous retrouve dans environ une heure pour un nouveau point d'actualité.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.